Radio Cité Genève, nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
Bonjour, vous écoutez l'émission nectar.ge.ch sur Radio Cité donc, et c'est Aristide qui vous parle. Aristide qui a un invité de marque aujourd'hui en la personne de Claude Desbaillets, qui était œnologue cantonal pendant des années et des années. Il nous parlera de son expérience, il définira sa profession, jettera peut-être un coup d'œil synthétique sur l'évolution du vignoble genevois pendant toutes ces années. Voilà, je redis que nectar.ch, c'est une émission, c'est pas la discussion du café du commerce, c'est une émission qui se veut documentée, poétique, littéraire, historique, pourquoi pas, et même religieuse, parce que on sait que dans la Bible, il est souvent question de vin et que les moines ont joué un rôle capital dans la formation du vin, dans la culture de la vigne, dans la délimitation des parchets. Voilà, donc ça sera une émission un petit peu touche-à-tout, mais quand même pas foutoir. Voilà, c'est surtout l'émission du franc-parler et une émission qui se veut documenter. Alors, la dernière fois, nous avions invité Jean-Charles Crouzat et il y a une chose qui était dite hors micro qui m'a paru particulièrement intéressante et que j'aimerais vous rapporter. Voilà ce que disait Jean-Charles. Il disait « Autrefois, c'est une décision de la Confédération qui a involontairement, c'est un effet secondaire, nuit à la qualité du vignoble genevois parce qu'il avait été décidé de subventionner le raisin de table. » On sait que les ménagères choisissent au marché les plus beaux raisins, les plus belles grappes, bien dorées. Et par conséquent, pour le vin, il restait une qualité moindre. Ce qui fait que pendant des années, cette décision a pesé sur la qualité des vins genevois. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Et voilà, c'est une explication. Il y a d'autres explications à la grande résurrection du vignoble genevois, mais c'en est une. Et il était intéressant, m'a-t-il semblé, de la porter à votre connaissance. Alors, une petite rubrique inédite, actualité. Vous avez peut-être lu ou entendu que dans le Bordelais, le château Pétrus a été vendu pour 1 milliard de francs à un Bolivien. Qu'en pensez-vous ?
Bon, écoutez, je pense que je suis content que beaucoup de monde s'intéresse au Bordeaux et que, somme toute, ça crée encore une ouverture de plus pour ce vignoble. J'espère que les Français ne les laisseront pas tous partir dans les mains étrangères.
Mais est-ce que ce n'est pas un peu disproportionné pour vous ? Est-ce qu'on n'entre pas dans un processus purement spéculatif ?
On l'aurait écouté, le disproportionné, c'est le salaire des tennisman, c'est le salaire des footballeurs, ça je ne me prononce pas.
Voilà, donc vous n'avez pas sauté au plafond ?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout. Moi oui, mais bon, c'est pas grave. Je vous raconte une petite anecdote personnelle pour une fois. Le soir, quand je mange, j'ai toujours une bouteille de vin sur la table. Et puis, je cache l'étiquette à mon épouse. Et puis voilà, comme d'habitude, donc elle ne voyait pas ce qu'elle buvait. Et elle me dit « Ah, pour une fois que tu as monté un bon vin, c'est un château Pétrus. Est-ce que vous l'auriez assommé ?»
Votre femme ?
Oui.
Non, sûrement
en étant,
pas.
En étant
beaucoup
à ma place.
Aimé.
Non ? Vous n'auriez pas eu envie de l'assommer ?
Pas du tout, non.
Non ? Alors vous êtes quelqu'un de particulièrement pacifique, voilà. Alors, nous allons en venir à votre profession. Bon, tout le monde sait qu'il y a un pharmacien cantonal, un médecin cantonal, un chimiste cantonal, et puis un œnologue cantonal. Par contre, ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est ce que fait au juste l'œnologue cantonal, quel est son cahier des charges, quel est son statut, quelles sont ses différentes interventions. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur cette profession ?
Ben écoutez, je peux vous éclairer sur ma version, moi. Même propre de l'œnologue cantonal. Cette version évolue, donc pour ce que j'en ai fait moi, c'était d'être à la disposition des viticulteurs et des vinificateurs pour leur aider à élaborer leur vin et pour les aider à cultiver leur vigne dans les meilleures conditions.
Donc, par exemple, est-ce que vous aviez une tâche qui consistait à analyser le vin en cours d'élaboration et à leur donner des conseils ?
Alors écoutez, de toute façon, oui, il y a la station de viticulture ou les divers noms qu'elle a portés, puisqu'elle a changé de nom de temps en temps, a eu toujours un laboratoire dans lequel on faisait les analyses nécessaires pour aider les viticulteurs à élaborer leur vin. Et chaque analyse était liée à un conseil, mais de toute façon, jamais un conseil impératif, c'était un conseil, disons, de collaboration avec le viticulteur.
D'accord, donc vous lui donniez des suggestions, mais vous respectiez son style.
Totalement.
D'accord, donc on est bien d'accord, chaque vigneron a son style. Les uns aiment des vins plus puissants, d'autres plus légers, plus ceci, plus cela.
De toute façon, jamais mes interventions n'ont été des interventions impératives, ça a été des échanges. Et aussi bien les vignerons m'apportaient leur expérience, et moi j'apportais mes connaissances, et ça a toujours été par échange, aussi bien dans l'œnologie que dans la viticulture.
Je vous pose une question. Il y a 40 ans, il me semble qu'on ne parlait guère de l'école de Changin. Maintenant que Changin fait figure un petit peu de passage obligé, est-ce que la demande faiblit de ce fait ?
Alors écoutez, non. D'abord, premièrement, l'école de Changin, on en parle depuis relativement peu de temps, enfin si ce n'est 40 ans, mais enfin...
Voilà.
Elle était précédée avant d'une école qui était à Lausanne, qui était liée aux stations fédérales, qui était vers l'hôpital à Lausanne. Et c'est ici qu'on faisait l'école. Et moi, j'ai suivi d'abord une école de viticulture spécialisée, ensuite une école d'œnologie spécialisée. Et quelques années après, en fonction, j'ai suivi un technicum d'œnologie qui était la préfiguration de l'école d'ingénieurs actuelle.
D'accord, d'accord. Vous avez vu le film Mondo Vino ?
Oui.
Dans ce film, on voit un personnage, un œnologue, qui est sans doute un disciple de Parker, qui est dans sa voiture, et puis on lui téléphone, il a son portable en permanence, 24 heures sur 24, et des vignerons lui demandent ce qu'il faut faire. Et alors on voit ce personnage, dont je tairai le nom, qui dit « faites ceci, faites cela, faites cela ». Qu'est-ce que vous pensez de cette façon ? Parce qu'en somme, il ne se base pas sur des analyses.
Alors écoutez, de toute façon, l'aide aux vignerons n'est pas toujours liée à des analyses. Et très probablement que la personne en question... avait une idée très précise de la cave de celui auquel qui lui demandait des conseils. Et à ce moment-là, moi j'ai aussi souvent des téléphones d'un vigneron qui me dit « aujourd'hui je suis en train de faire ça ». J'avais en tout cas souvent, maintenant j'en ai encore un qui me téléphone régulièrement. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dois décuver ? Est-ce que je dois faire un transvasage, etc. Et ça, je peux lui donner une information sans faire une analyse.
D'accord. Décuver, est-ce qu'on peut dire en quoi ça consiste comme opération concrètement ?
Oh pardon, c'est dans l'élaboration du vin rouge. Le vin rouge, on le met avec la pellicule et les pépins pendant une semaine à peu près pour faire sa fermentation. Et lorsqu'il a fait sa fermentation, qu'il enrichit en tanin et en couleur, à un moment donné, il faut le séparer, c'est-à-dire qu'on enlève le clair, qu'on sort l'épais, qui sont les pellicules et les pépins, qu'on passe cet épais dans un pressoir et qu'on appuie légèrement sur cet épais pour en faire sortir le reste du vin.
D'accord. Et puis après, in fine, on en fait de la lie.
Ah non, on en fait non. Du marc, c'est le marc.
Du marc, je voulais dire. La lie, on l'a fait avec la lie. Là, c'est le marc, d'accord.
Oui.
Vous avez parlé aussi de la culture de la vigne. Est-ce que pour juger de la qualité de la culture, est-ce que vous n'êtes pas obligé de vous promener dans les vignes ?
Ah, alors ça, c'était mon travail principal, oui.
Ah, voilà.
Et on faisait ça individuellement ou aussi dans le cadre de l'aide à la technique, il y avait des groupes par village qu'on appelle les CETA et qui se réunissaient régulièrement avec lesquels on faisait à 8 ou 10 une tournée de vignes en discutant des problèmes qu'on voyait sur place au fur et à mesure et en cherchant des solutions pour résoudre ces problèmes ou en cherchant des solutions pour faire avancer la viticulture.
D'accord. Est-ce que la façon de cultiver la vigne au fil des années n'a pas changé? Parce que je vois que maintenant, on laisse pousser l'herbe entre les lignes, hein, quitte à la faucher, alors qu'autrefois, on s'efforçait de désherber au maximum, me semble-t-il.
Alors écoutez, la vigne, c'est une longue histoire. Hein. Quand la vigne était plantée en foule, c'est-à-dire sans ligne, on allait avec un fossoir pour labourer la vigne. Et à ce moment-là, il y avait un peu d'herbe, il y avait des mottes et il n'y avait pas d'érosion. Ensuite, on a aligné les lignes et dans le canton de Genève, vu le relief, on les a alignées dans le sens de la pente. Sitôt que ces alignements ont été faits, sitôt qu'il y avait de la pluie, on a commencé à avoir un peu d'érosion. Voilà. Et quand la mécanisation est arrivée, ça tassait un peu les sols et ça augmentait l'érosion. Donc on a commencé, après divers essais, de ne plus faire de la culture, mais d'utiliser des herbicides. Mais cette solution n'était pas une solution très intéressante, si bien que très vite, au début de ma fonction, on a commencé à essayer d'introduire des enherbements dans les vignes.
Voilà.
Et c'est ce qui aujourd'hui arrive, que vous voyez toutes les vignes avec un peu d'herbe qui cohabite avec la vigne.
Donc quand on voit une vigne herbeuse, c'est pas que le vigneron soit négligent, c'est simplement qu'il ne veut pas empoisonner son sol avec les désherbants, ou bien?
Écoutez, c'est en tout cas en grande partie ça, parce que partout où l'herbe pousse, il n'y a pas de désherbant. Et puis deuxièmement, c'est parce que c'est une vie commune entre la vigne et l'herbe qui, à la longue, s'est bien portée et qui fait qu'on a évidemment plus d'érosion et que le sol tient bien à sa place et que la vigne s'en porte bien.
J'entendais dire autrefois que des vignerons labouraient pour que la terre et par conséquent la vigne respire.
Alors écoutez, c'est vrai. Il y avait un vieil adage qui disait « un binage vaut deux arrosages », mais dans le cadre de la viticulture, la vigne s'est bien accommodée d'une absence de culture, mais avec l'enherbement, c'est les racines qui créent un petit labour, si vous voulez, elles font leur travail en profondeur.
Voilà. Vous étiez le bon docteur Claude Desbaillets qui se promène dans les vignes et qui prescrivait, par exemple, une médication aux vignerons. Qu'est-ce que vous leur préconisiez, par exemple?
Bon, écoutez, tout dépend. Hein. On avait, au début, les vignes produisaient un peu trop à Genève.
Voilà.
Et chaque printemps, les vignes jaunissaient un peu parce qu'elles n'avaient pas suffisamment de réserves. Alors, le bon docteur allait dire aux gens, mettez un chélate de fer pour limiter cette chlorose, etc. Donc, on avait toute une série de choses qui nous sont posées. À un moment donné, on devait lutter contre les araignées rouges aussi. Le bon docteur donnait un acaricide. Mais petit à petit, le bon docteur a dit, si vous ménagez les prédateurs, enfin les acariens prédateurs de l'araignée rouge, vous arriverez à vous limiter à ne plus utiliser d'acaricides. Donc, les conseils ont toujours été adaptés d'abord avec les progrès qu'on faisait, et deuxièmement, toujours été et donnés aux vignerons pour les aider, mais non pas pour les contraindre. Et pour finir, en discutant ensemble, on arrivait à trouver des solutions qui étaient les meilleures, avec l'expérience du bon docteur, avec l'expérience du viticulteur, et puis l'expérience du voisin du viticulteur, et on a fait des gros progrès avec cette méthode.
Donc peut-être de moins en moins de chimie, ou bien...
Alors la chimie diminue, mais les maladies restent.
Donc...
De toute façon, ce qui a créé les difficultés, c'est la mondialisation. Au milieu du 19e siècle, ou à la fin du 19e siècle, nous est venu des États-Unis le phylloxéra, le mildiou, l'oïdium, maladies qui sont encore présentes et contre lesquelles on est obligé de lutter encore.
Donc des traitements indispensables. Sinon...
Alors, des traitements indispensables. Seulement, on a eu pendant une grande période, c'est-à-dire dès les années 1950, des traitements de chimiques de synthèse qui étaient très efficaces, mais dont on critique un peu les résidus qu'ils laissent. Mais ils ne sont pas tous les mêmes, donc il ne faut pas tout mettre tous ces produits dans le même panier. Mais quand on veut faire maintenant de la viticulture biologique, on doit lutter encore, la même chose, contre les mêmes maladies, mais on essaye de revenir à l'utilisation de cuivre et de soufre, qui étaient les produits de base au début.
Plus naturels, en quelque sorte.
Alors, ils sont plus naturels. Le cuivre, si on en met trop dans les sols, ça intoxique les sols, mais il y a des utilisations actuelles du cuivre qui font qu'avec des traitements un peu plus fréquents et des doses faibles, on arrive à résoudre le problème. C'est ce qui permet aux viticulteurs qui essayent de faire de la viticulture biologique de préserver les vignes de la maladie, mais quand même avec un travail important pour arriver à ce que la vigne résiste à la fois aux maladies, qu'elle s'équilibre avec les herbes, etc.
Très bien, merci. En tout cas, nous avons appris beaucoup de choses de cette profession qui était vraiment peu connue, mais je pense providentielle pour tous les vignerons. Alors, restez sur Radio Cité, une brève pause pour reprendre notre souffle. Et nous restons donc sur Radio Cité, nous restons en compagnie de ce personnage qui sait tout de la viticulture genevoise, c'est-à-dire Claude Desbaillet, ancien œnologue cantonal.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève.
Il tape sur des bambous et ses numéros 1.
Il tape sur des bambous et ses numéros 1.
Dans son île on est fou comme on est musicien.
Dans son île on est fou comme on est musicien.
Sur Radio Jamaïque il a des copains.
Sur Radio Jamaïque il a des copains.
Il fabrique sa musique et ça lui va bien. Il vit sa vie au bord de l'eau, coco et coquillage. $1 pour prendre en photo son plus beau tatouage. Sa vie comme un vendredi, Robinson est parti. Il verra toujours bien dans sa peau quand il prend ce tempo. Il tape sur des bambous et ses numéros 1. Dans son île on est fou comme on est musicien. Sur Radio Jamaïque il a des copains. Il fabrique sa musique et ça lui va bien. Il tape sur des bambous, il joue pas les requins. Tahiti, Tuamotu, Équateur, Méridien. Il y a les filles de partout qui lui veulent du bien. Lui la gloire, il s'en fout et ça va, ça vient. Il connaît le nom des bateaux, prénom du capitaine. Il te refile en stéréo la chanson des sirènes. Trafique un peu dans tous les ports, la marine est d'accord. Y'a aucun malaise dans sa combine, c'est une musique machine. Sur des bambous, il joue pas les requins.
Il tape sur des bambous, il joue pas les requins.
Tahiti, Tuamotu, Équateur, Méridien.
Tahiti, Tuamotu, Équateur, Méridien.
Y'a des filles de partout qui lui veulent du bien.
Y'a des filles de partout qui lui veulent du bien.
Lui la gloire, il s'en fout et ça va, ça vient. Il vit sa vie comme un vendredi. Robinson est parti. Tu verras toujours bien dans sa peau quand il prend ce tempo. Il tape sur des bambous et ses numéros.
Il tape sur des bambous et ses numéros.
Dans son île on est fou comme on est musicien.
Dans son île on est fou
Jamaïque, il a des copains.
Sur Radio Jamaïque, il a des copains.
Il fabrique sa musique et ça lui va bien. Il tape sur des bambous, il joue pas les requins.
Il tape sur des bambous, il joue pas les requins.
Tahiti, toi, Motu, Équateur, mérite.
Tahiti, toi, Motu, Équateur, mérite.
Il y a des filles de partout qui lui veulent du bien.
Il y a des filles de partout qui lui veulent du bien.
Lui, la gloire, il s'en fout et ça va, ça vient.
Radio Cité Genève, nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
De retour sur Radio Cité Genève, aujourd'hui, nectar.ge.ch, nous sommes en compagnie de Claude Desbaillet, œnologue cantonal, qui nous a dispensé son savoir panoramique sur la culture de la vigne et sur la vinification. Vous avez droit, comme d'habitude, à une citation, puisque notre émission se veut culturelle. La citation du jour... Elle est due à Martin Luther. Accrochez-vous. Qui n'aime point le vin, les femmes, le champ restera sot toute sa vie. Alors j'aime bien cette phrase, j'adore ça, c'est une saine conception de la religion. Alors ce qui m'intéresse dans cette citation, c'est qu'il commence par le vin, ensuite les femmes, ce qui est bien, et puis il aurait pu dire la musique, il dit le chant. Mais le chant, c'est ce qui sort de nos poumons, c'est ce qui sort de notre être le plus intime. Alors voilà, donc mon but n'est pas de faire de la polémique, mais de comparer la position de Luther, Martin Luther, à celle de Jean Calvin. Je relis la phrase de Martin Luther. « Qui n'aime point le vin, les femmes, le chant restera toute sa vie. » Autrement dit, il passera à côté de l'essentiel. Jean Calvin, qui était aussi un réformateur, avait un point de vue opposé, c'est-à-dire qu'il n'aimait pas que les Genevois boivent, fassent la fête, qu'ils dansent, qu'ils mangent de façon à faire bombance. Ce qui fait qu'à Genève, il s'est passé un phénomène significatif. Les gens, après leur journée de travail... Ils étaient privés de boissons, ils ne devaient pas traîner dans les estaminets de la vieille ville. Par conséquent, ils se réfugiaient à Carouge, un peu comme des réfugiés politiques. Et c'est pour cela qu'à Carouge se sont mis à fleurir les cafés, les bistrots et autres débits de boissons, sans compter les bons restaurants. Et c'est vrai, il ne faut pas s'étonner de cette surabondance de cafés, restaurants et autres bistrots à Carouge. La faute à Calvin, comme on disait des fois. Voilà, alors vous comparez les positions de Luther et celles de Calvin. J'ai fait mon choix. Voilà, restez donc sur radiocité-nectar.ge.ch. Restez en compagnie de Claude Desbaillet, si vous voulez tout savoir sur le vin genevois. Maintenant, nous arrivons à la rubrique La Chaussette. La chaussette étant la chemise qui cache la bouteille, dont on va déguster une petite partie avec modération. La chaussette, donc, c'est, comment dire, notre conviction, notre dogme, puisqu'on était dans la religion. Pour bien parler d'un vin, il faut que la bouteille soit cachée. C'est beaucoup trop facile de lire l'étiquette et puis de raconter des tas de choses savantes. Donc, nous soumettons notre invité à une dégustation, étant bien entendu que parmi les centaines de bouteilles différentes genevoises, il ne s'agit pas de deviner qu'il s'agit, par exemple, du Viognier de M. Intel à Lancy. Ce n'est pas du tout le but c'est un commentaire. Et pour modifier le rituel, cette fois, je vais même poser quelques questions de dégustation. J'ouvre déjà la bouteille. Vous riez alarmé quand on entendait ce bruit, on criait « Présent !» Donc, la première question, quand je verse dans le verre, est-ce que le bruit du vin qui s'écoule est déjà pour vous un signe particulier?
Non.
Même s'il peut sembler un peu huileux et s'il chante différemment?
Alors, s'il semble huileux, je le vois couler huileux. Et ça me suffit pour mon diagnostic.
Très bien. Deuxième question. Comment doit être le local? Est-ce que ici nous sommes dans un local approprié?
En tout cas, c'est un local que j'estime neutre vis-à-vis du vin. C'est bien. C'est pas, il n'y a pas un tonneau, il n'y a pas 50 bouteilles qui nous disent « ça y est, vive la joie, on va faire une bombance ». Donc, j'adore les locales neutres. J'ai toujours préconisé d'aller dans un local neutre, d'aller dans une chambre à manger, d'aller dans une cuisine, mais sortir de la cave.
La lumière est importante.
J'aime bien avoir une lumière. Moi, j'aime bien avoir de la lumière. Certains préconisent de faire des couleurs différentes, mais moi, j'aime bien déguster en lumière.
Pour voir la couleur du vin.
Pour voir la couleur du vin, pour... Puis je suis mieux à l'aise.
Voilà. On dit qu'il y a une heure idéale pour la dégustation. Laquelle ?
Faut avoir faim.
Il y a des gens pendant la dégustation qui grignotent, je sais pas, peut-être des chips au paprika, d'autres des petits bouts de pain. Qu'en pensez-vous ?
Alors, les chips au paprika, comme le fromage, c'est prohibé.
Prohibé.
Les bouts de pain, faut pas en abuser parce que c'est fatigant. Alors, quand on a une grande dégustation à faire, je dois vous dire que je suis habitué de la chaussette parce qu'on faisait toujours les dégustations à l'aveugle et on se concentre sur le vin et puis on fait ce mieux possible. Et puis, si on n'est pas tout seul pour déguster et qu'il y a des collègues dans une commission de dégustation, de temps en temps, on se dit « si je me plante », il y a un autre qui va rattraper ma connerie. Pardon, ma bêtise.
Voilà. Non, n'ayons pas peur des mots. Non, mais il ne faut pas être inhibé, à mon avis. Quand on goûte, il faut dire ce qu'on pense, dire ce qu'on éprouve, sans détour, sans avoir peur d'être ridicule. Pour moi, ça, c'est aussi un dogme, deuxième dogme. Voilà, on va vous laisser goûter le vin et vous le commenterez. Je vous dirai que je me suis escrimé à le mettre à la bonne température. On parlera aussi de la température. Un tour de nez, si j'ose dire. Plusieurs tours de nez.
Alors écoutez, évidemment, j'ai vu qu'il était rouge. C'est déjà quelque chose d'assez facile.
Félicitations.
Je suis très content d'avoir découvert ça sans difficulté. Puis après, je le prends au nez. Et il faut être très attentif parce que le nez est un organe qui s'habitue. Quand vous entrez dans une salle, vous sentez toutes les vilaines odeurs qui sont dans cette salle. Mais au bout d'un moment, le nez efface ces odeurs. Donc, on doit être totalement attentif quand on plante le nez dans le verre.
Donc, dame trop parfumée, à proximité, également prohibée.
Oui, homme pas très propre aussi. Voilà. Il n'y a pas que les dames qui sont en cause.
Voilà, notre chaussette est propre, hein, par contre. Le nez, qu'est-ce qu'il vous raconte ?
Le nez, d'abord, il raconte que le vin est très ample. Est très profond. Je sens une grande rondeur dans ce nez et des parfums de baies. Je ne vais pas décrire les baies les unes après les autres parce que j'estime que c'est un travail d'œnologue un petit peu poète, mais pour moi, c'est une baie noire un petit peu...
Alors, dégustons peut-être ?
Oui.
Déception à la dégustation ou confirmation ?
Confirmation totale, parce que mon nez a l'habitude de bien comprendre le vin, bien m'exprimer. Je retrouve un vin très chaleureux, rond, puissant, avec une grande profondeur. C'est un vin rouge de très bonne qualité.
Dites-moi, pour me faire plaisir ou pour me mortifier, si j'ai bien réussi avec la température.
Ouais.
Bon, donc vous l'auriez voulu un peu plus ?
Un peu plus frais.
Un peu plus frais.
Écoutez, c'est très difficile.
Température pour un rouge comme ça ?
D'abord, premièrement, il y a la température de dégustation et la température d'agrément. J'aime bien que le vin, lors d'une dégustation, soit légèrement au-dessus de la température d'agrément. Parce que à un degré près, si vous voulez, un ou deux degrés près... Parce que ça permet au parfum de mieux s'exprimer. Maintenant, au point de vue température, ici, si je me parle de la température d'agrément, je trouve qu'il est un petit peu chaud, parce que s'il avait un peu de fraîcheur, au lieu d'apparaître très puissant, très rond comme ça, peut-être même un peu lourdeau, c'est un terme très vilain, hein, parce que ce n'est pas du tout le cas, mais en lui donnant un degré ou deux degrés de moins, on le réveille.
D'accord, d'accord. Le vin, quand il est trop froid, on peut se dire « attendons une demi-heure et nous verrons ».
Il y a des tas de choses. D'abord, premièrement, attendons une demi-heure, ça dépend si le vin est servi ou pas. Hein.
Voilà.
Si le vin est servi, on peut dire « attendons quelques minutes », ça va le permettre de l'ouvrir et de faire le même travail que dans une carafe.
Bien, ben maintenant, je crois que le moment est venu de dévoiler la bouteille.
Merci.
D'enlever la chaussette. Je peux vous laisser le soin de donner connaissance de l'identité de cette marchandise.
Alors, déjà, premièrement, je ne suis pas totalement surpris. C'est-à-dire que je sais, j'avais compris que c'était un vin solide, puissant et riche. Après, je vais tâcher de trouver le millésime. Oui, encore 2015, ce qui fait un des excellents millésimes qu'on a eu ces dernières années. Donc, il a tout pour correspondre à ce que j'ai trouvé. Maintenant, en plus, il a ses caractéristiques positives. C'est un cœur de clémence, un gamaret de la cave de Genève, ce ferreur.
Oui.
Et il est de très bonne qualité. Et il y a une chose aussi, c'est qu'il est parfaitement pur au point de vue parfum.
Voilà.
Et c'est pas toujours facile dans ces vins rouges puissants d'avoir une totale pureté dans le parfum. Et moi, je suis très sensible à la pureté du parfum.
Donc, du très très beau travail qui honore une fois encore le vignoble genevois. Je vous remercie, Claude Desbaillets, d'avoir bien voulu nous faire partager vos connaissances. Nous allons prendre congé sur une musique choisie par notre invité, à savoir le 7e prélude de Frédéric Chopin. Eh bien, c'est le point d'orgue de notre émission de ce jour. À bientôt.